Bonjour.
Bonjour.
Nous avons entendu que vous étiez président de Fou Nature. En quoi cela consiste ?
Alors oui, effectivement, je suis président d'une association qui est à la Flèche, que j'ai créée en 2013. Parce que bon, je suis un passionné de nature, de voyage. Donc l'association, elle a pour objectif de proposer des conférences avec projection d'un documentaire. Et puis ensuite, on a un invité ou des invités qui viennent nous parler du sujet en question, du sujet qui a été traité pendant la projection. On organise aussi quelques sorties nature. On organise également des expositions et j'aime particulièrement proposer des animations astronomiques le soir durant l'été parce que bon, ça se prête beaucoup plus que l'hiver où les températures sont très basses.
Est-ce que cela est votre métier de filmer les gens ?
Alors, je suis effectivement vidéaste, c'est le terme que j'utilise généralement pour qualifier, nommer mon métier. Donc, je réalise des reportages, des films documentaires, des films pour les entreprises.
Depuis quand cette association existe ?
Alors, donc, elle existe depuis 2013, ça va faire bientôt 12 ans. Et ça va faire 12 ans au mois de février, exactement. Donc on espère, je ne sais pas si elle va durer encore autant d'années, mais elle existe toujours et on est en train d'établir le programme 2025.
Est-ce que n'importe qui peut entrer dans l'association ?
Alors l'association, tout le monde est invité, effectivement, tous les adhérents sont les bienvenus. Actuellement, on a une petite soixantaine d'adhérents. Alors on a une baisse du nombre d'adhérents depuis le Covid. Vous avez tous entendu parler du Covid. On est impacté un petit peu par ce virus. Mais voilà, on a toujours un noyau de gens fidèles et qui viennent assister donc aux animations que nous proposons. Et tout le monde est le bienvenu, hein, que ce soit de la Flèche ou de l'extérieur de la Flèche.
Comment êtes-vous devenu président de Fou Nature ?
En fait, je l'ai un petit peu décidé pour dire vrai. Il en faut un président pour constituer un bureau. Il faut un président ou une présidente. Il faut un trésorier, une trésorière, secrétaire. Et donc, j'ai endossé la casquette, comme on dit souvent, de président. Et puis, depuis, comme personne n'en veut, je reste à ce poste-là, un petit peu comme un roi qui règne pendant longtemps. Mais bon, c'est vrai que j'aime cette association. C'est un petit peu mon bébé, finalement, parce que je l'ai créé en 2013 avec, à l'époque, une amie. Et puis, on continue l'aventure.
Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ?
Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je l'ai créé par passion, vraiment, depuis que je suis jeune. À l'époque, quand j'étais à l'école primaire comme vous, j'étais déjà très intéressé par la nature. J'observais les oiseaux qu'il y avait dans le jardin de mes parents, les petits animaux, et j'ai eu la chance de voyager en Afrique parce que j'avais de la famille. Un oncle qui vivait donc en Afrique de l'Ouest à l'époque, et quand j'étais adolescent, donc un peu plus tard, vers l'âge de 16 ans, j'ai eu l'occasion de visiter un pays qui s'appelle aujourd'hui le Burkina Faso. Et ça a été un bouleversement dans ma vie parce que depuis, je suis devenu guide au Kenya et en Tanzanie, et surtout principalement en Tanzanie. Donc j'explique la vie des animaux de la savane africaine aux personnes qui me font confiance.
Quelle est l'origine du zoo de la Flèche ?
Ah, le zoo de la Flèche, effectivement, c'est un parc zoologique qui existe depuis après la Seconde Guerre mondiale, qui a été créé par Jacques Bouillot, que j'ai eu comme ami pendant 20 ans. Et ce monsieur-là a fait quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque. Il n'était pas... Franchement, il n'était pas fait pour faire un zoo. C'était en tout cas pas son envie initiale, mais progressivement, il a accueilli des animaux de la région. Il a commencé par des petits animaux de notre région, que ce soit des mammifères, que ce soit des rongeurs, que ce soit des oiseaux. Et puis progressivement, il a récupéré des animaux provenant d'autres continents. Et le zoo de la Flèche est devenu une référence nationale, donc en France, même au-delà. Une référence européenne et mondiale. Alors bon, le zoo de la Flèche a bien changé puisque Jacques Bouillot n'est plus de ce monde. Et donc ça a été repris par un ancien camarade de classe, Stéphane Dacuna, il y a très très longtemps. Et donc ça a bien changé aujourd'hui. Hein. Le zoo de l'époque de Jacques Bouillot ne ressemblait pas du tout au zoo qui est aujourd'hui. Donc il y a une évolution qui, voilà, dans l'air du temps, dans le cours du temps.
Il habitait vraiment à l'endroit où il y a eu le zoo ?
Oui, c'est ça. En fait, il a eu la chance d'habiter ce qu'on appelait à l'époque le tertre rouge. Et un endroit idéal avec des sapinières, là où il y a des sapins, et puis une nature relativement riche, et puis surtout beaucoup d'espace. Et en fait, il y avait des gens de la Flèche et des environs qui lui amenaient souvent des animaux blessés, comme un renard. Et ce que disait habituellement Jacques Bouillot, c'est que quand il récupérait, admettons, un renard blessé, il réparait le renard. En fait, il n'utilisait pas le terme de soigner comme un vétérinaire soigne un animal, que ce soit un chien, un chat ou un autre animal. Jacques Bouillot, lui, c'était un petit peu comme de la mécanique. Quand le renard avait une patte cassée, bah, il réparait le renard comme il pouvait.
Est-ce que vous avez des grands projets pour votre association ?
Des grands projets, peut-être changer le nom de l'association. Parce que effectivement, dans l'association Food Nature, il y a beaucoup d'activités qui sont liées à l'astronomie, donc l'observation des planètes, du soleil aussi, parce que j'ai du matériel qui permet d'observer le soleil en plein jour. Le soleil, la nuit, vous imaginez bien qu'il est couché, comme on dit habituellement. Et les étoiles, tous les petits points blancs que vous voyez briller dans le ciel, hormis quelques planètes, ce sont un petit peu comme des soleils que l'on voit dans la journée. Donc ça va être de continuer à augmenter le nombre d'animations astronomie, et tout le monde est vraiment le bienvenu parce que ce sont des animations qui sont proposées gratuitement. Voilà, il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir assister à ce genre d'animation. D'autres grands projets pour le moment, non. Peut-être une future exposition dans 2-3 ans.
Où est votre association ?
Donc, alors, elle est basée à La Flèche. Elle est née à La Flèche. Elle continuera sa vie donc à La Flèche. Et on a un partenariat avec la ville de La Flèche, la mairie de La Flèche. Et donc, ça permet effectivement de continuer sereinement et puis dans de bonnes conditions avec, entre autres, l'équipe de Karine Ménage qui est adjointe à la culture à la ville de La Flèche.
Comment voudrez-vous renommer votre association ?
Ah là, c'est une bonne question parce qu'on est en train de se poser la question quel nom idéal. C'est vrai que Food Nature, Fou, F-O-U-S, parce qu'on est un petit peu dingue de nature, on l'aime la nature, on en est fou. Après, on a comme animal emblématique de l'association un oiseau qui s'appelle le fou de Bassan. Alors, le futur nom de l'association pourrait être quelque chose du genre ciel et nature, au lieu de food nature, ciel et nature, parce que en rapport avec le ciel et l'astronomie.
Comment avez-vous eu l'idée de ce nouveau nom ?
Alors, il n'est pas définitif, donc c'est une info exclusive quelque part. Et puis, ça risque d'être ça quand même. Donc, c'est vrai que Radio Prévert et vous-même, bon, vous avez l'exclusivité de cette information-là. Encore une fois, c'est pour garder la nature comme pilier de l'association, et puis le ciel, l'astronomie. Donc ciel et nature, on me dit que ça sonne relativement bien. Est-ce que ça vous plaît, ciel et nature ?
Oui, oui.
Pour te poser une question.
Bien sûr.
Comme vous aimez la nature, est-ce que vous avez déjà vu un oiseau à sabots ?
Le bec en sabot.
Oui, oui.
Alors non, dans le pays où je vais habituellement, la Tanzanie, j'ai pas connaissance de la présence de bec en sabot. C'est un oiseau exceptionnel. Je sais qu'il y en a en Ouganda. Il se peut qu'il y en ait à certains endroits de la Tanzanie, mais je ne sais pas où, franchement. Mais j'en ai jamais vu.
Il peut décapiter ses proies avec sa mâchoire et son bruit qu'il fait avec ses sabots, ça ressemble à une mitraillette.
Ah oui. Alors c'est vrai que oui, excuse-moi.
Il claque très vite son sabot de. Voilà.
C'est un bec très puissant.
Oui, voilà. Ouais,
c'est un oiseau assez impressionnant. Je l'ai vu dans certaines émissions documentaires à la télévision.
Ouais.
Quel est votre animal préféré ?
Tous. Ça va de l'éléphant, que j'admire, parce que l'éléphant a une intelligence assez exceptionnelle, proche de la nôtre, une vie sociale, un petit peu comme les humains. Moi, j'ai eu la chance de voir de très très nombreux éléphants depuis. Les premiers, je les ai vus dans le nord du Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest, et j'ai vu mes trois premiers éléphants, c'était en 1983. Donc ça date. Et c'est un animal effectivement que j'affectionne particulièrement, mais j'ai beaucoup de respect pour toutes les espèces, y compris les moustiques. Les moustiques, quand il y a un moustique à la maison, je le mets dans un gobelet, j'ouvre la fenêtre et je le sors dehors. Voilà, je ne tue pas les moustiques, je ne tue pas les mouches.
J'ai dû
Pourquoi vous ne tuez pas les moustiques et les mouches?
Quelle est la raison pour laquelle on devrait se débarrasser comme ça des mouches et des moustiques? C'est vrai que quand on a au-dessus de l'assiette une mouche, c'est pas, ou un moustique qui fait bzzz, alors qu'on est, on veut s'endormir dans notre lit, c'est pas très agréable. Après, on a un moyen, au lieu de l'éliminer, on peut tenter de le capturer et puis de le mettre à l'extérieur. Il a le droit de vivre comme nous, finalement. C'est vrai que bon, le moustique, on se demande à quoi ça sert, mais c'est là. Alors bon, ayons un peu de respect pour. Si on a du respect pour le moustique, ça veut dire qu'on a du respect pour tout l'ensemble de la faune des animaux qui vivent sur Terre, et on a en même temps beaucoup de respect pour les humains.
J'ai une question. Pourquoi avez-vous créé cette association?
Ah, ça c'est une autre bonne question. En fait, c'était tout simplement pour partager ma passion pour la nature avec le public, avec les gens de la Flèche et des environs. Je vous parlais tout à l'heure un petit peu d'astronomie. Mon grand-père m'a transmis sa passion pour l'astronomie, et je pense qu'il est aussi tout intéressant pour ma part de transmettre mes passions à la fois pour la nature et l'astronomie, et ça c'est beaucoup plus facile au travers d'une association.
Êtes-vous content d'être avec nous?
Eh ben moi je considère que c'est un sacré privilège d'avoir assisté à une séance avec Jocelyn de Radio Prévert, que j'ai eu l'occasion effectivement d'interviewer il y a quelques semaines dans le projet du petit film que nous réalisons pour mettre en valeur les temps éducatifs périscolaires. Donc c'est vraiment un plaisir de conclure ce travail-là parmi vous effectivement, et de voir un petit peu l'engouement, l'intérêt que vous portez pour la radio, parce qu'effectivement vous êtes, je pense, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui et aussi d'adultes, vous passez beaucoup de temps sur des écrans de télévision, des écrans d'ordinateur, des écrans de téléphone portable, ça arrive parfois, mais la radio c'est un moyen exceptionnel. On écoute la radio et on n'est pas... En fait, envahi d'images. Les images, quand on regarde quelque chose à la télé, ne serait-ce qu'un documentaire, on est moins attentif à ce qui se dit, on est plus attentif aux images. Tandis qu'à la radio, quand vous écoutez une émission de radio, parce qu'il y en a plein de passionnantes, que ce soit Radio Prévert, Radio France, France Culture, et que j'écoute beaucoup, là on est très attentif et on retient beaucoup mieux. En tout cas, c'est mon avis.
Avez-vous pu être plus proche, comme touché, des animaux sauvages grâce à l'association?
Alors, si je touche mon voisin, est-ce qu'on considère que mon voisin est un animal sauvage, un primate ou quelque chose? Non, pas tout à fait. Des animaux sauvages, j'ai eu l'occasion de caresser une maman Colobe Guéréza. Le Colobe Guéréza, il a été question de singe tout à l'heure. C'est un singe avec une longue queue. On l'appelle aussi le singe à manteau noir et blanc. Et c'était dans un lieu public où a vécu une personne que j'ai admirée beaucoup, qui n'est plus de ce monde, elle non plus, Joy Adamson. Et puis, voilà, ces animaux-là, finalement, squattent un petit peu la propriété. Et donc, il y a possibilité de temps en temps. Alors, on évite les animaux sauvages, parce que quand je pars en Tanzanie ou quand j'allais au Kenya avant, effectivement, on avait des éléphants qui approchaient, des lions qui étaient parfois allongés le long du véhicule, le long du 4x4. Là, il était hors de question, bien évidemment, de sortir le bras et de caresser un animal comme ça. Alors, pour la petite anecdote quand même, lorsque je suis allé en 1983 en Haute-Volta, donc le Burkina Faso d'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de monter sur un crocodile, sur le dos d'un crocodile. Alors ça, c'est un scoop peut-être pour vous, pas pour ma famille qui n'était pas ravie de mon exploit. Et finalement, en fait, si vous regardez un jour des images, vous tapez sur Internet, les caïmans sacrés ou crocodiles de Sabou, S-A-B-O-U, vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui ont eu effectivement l'occasion de monter sur un crocodile. C'est une tradition là-bas. Ils sont pas trop dangereux, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc, pour répondre à ta question, on évite quand même.
Avez-vous eu peur quand vous êtes monté dessus?
J'ai trouvé le temps particulièrement long. C'était particulier comme sensation. J'avais l'impression de monter sur un tronc d'arbre, finalement, comme l'écorce d'un arbre. Et je suis resté peut-être 10 secondes, ça m'a paru une éternité. J'ai pas eu peur plus que ça, mais quand je suis ressorti de l'eau, j'étais peut-être dans 30 centimètres d'eau, de profondeur d'eau, et j'ai regardé l'animal, j'ai dit, Allez, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas.
Ah oui.
Pouvez-vous nous expliquer qui est Joy Anderson?
Alors, Joy Adamson, de son nom, en fait, c'est une personne qui a vécu au Kenya pendant plusieurs dizaines d'années. Elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelait George Adamson. Et alors, je vais vraiment résumer très rapidement son parcours. C'était, en fait, elle se qualifiait elle-même comme un garçon manqué. Elle faisait des activités qui étaient des activités à l'époque, des activités de garçons. Aujourd'hui, les filles et les garçons font tous et toutes les mêmes activités. Mais à l'époque, c'était bien différent. C'était une autre société. Et Joy Adamson, donc, faisait beaucoup de sport, a beaucoup voyagé. Elle est arrivée donc au Kenya, rencontrée George Adamson, qui lui a fait 1000 métiers, dont celui de guide de chasse. En fait, il accompagnait des chasseurs qui, y compris en Afrique, au Kenya à l'époque, c'était de tirer sur des animaux, de tuer des antilopes, etc. Et à un moment, il y a une lionne qui a attaqué George Adamson avec le chasseur qui était présent à ses côtés. Qu'est-ce qu'a fait George Adamson? Il a donc tiré pour se défendre sur la lionne qui s'est retrouvée blessée. Ils sont allés à la recherche de la lionne qui a rattaqué une deuxième fois. Et là, donc, il a été obligé de tirer une deuxième balle. Et ils ont constaté qu'elle avait des mamelles très grosses, qu'elle avait probablement des petits, une portée quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, George Adamson et le monsieur en question sont allés à la recherche de la petite portée. Ils sont tombés sur 3 lionceaux. George Adamson les a ramenés à sa compagne. Et là est arrivé à démarrer une histoire extraordinaire avec, entre autres, une petite lionne. Parce que parmi les 3 lionceaux, ils en ont conservé un seul. Une petite lionne qui était pas très en forme. Et ils l'ont nourrie. Ils l'ont réhabituée à vivre dans la nature, ils l'ont introduite. Cette lionne-là, si vous vous intéressez à son histoire, elle s'appelait Elsa. Et en fait, Joy Adamson a passé le restant de sa vie à récupérer des animaux orphelins, des animaux qui étaient trouvés dans la nature, on parle là d'animaux sauvages, et les rééduquait pour les relâcher ensuite dans la savane africaine. Ça a été surtout son grand parcours. Par contre, Joy Adamson était aussi une grande artiste peintre. Elle a fait des peintures, moi j'ai quelques exemplaires à la maison, de portraits des populations du Kenya, et puis des animaux, des fleurs, c'est merveilleux. C'était une femme artiste et puis une femme exceptionnelle.
Faites-vous de la chasse ?
Alors la chasse, la chasse que je fais, c'est de la chasse photographique ou avec ma caméra ou mon appareil photo. La chasse, voilà, il y a des chasseurs. Je vais pas condamner la chasse. Elle est probablement utile. En tout cas, elle existe, elle est autorisée. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, je ne comprends pas, vraiment pas, comment on peut tirer sur un lion, comment on peut tirer sur un éléphant, sachant que ces animaux-là ont quand même des vies sociales précieuses, et pour moi ça me paraît quand même, c'est très particulier. Mais la chasse en soi, les humains ont été par longtemps, et il existe toujours des populations, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, ils vivent de la chasse. Je vais parler en quelques secondes d'un peuple que je connais de mieux en mieux, le peuple Adzabé. Ils vivent que de cueillettes, les femmes partent à la cueillette tous les matins, pour se nourrir, et ensuite les hommes partent à la chasse pour se nourrir. Ils prélèvent dans la nature uniquement ce dont ils ont besoin pour se nourrir, pour survivre. Donc cette chasse-là me pose aucun problème. L'autre chasse, chacun est libre de pratiquer ou de pas pratiquer. J'ai pas trop de jugement par rapport à ça.
Avez-vous déjà vu un lion de près, en liberté?
Ah, des lions, j'en ai vu des centaines et des centaines et des centaines. À chaque fois que je pars en Tanzanie avec un groupe de touristes, effectivement, mon plaisir, c'est de leur montrer le maximum d'animaux en une dizaine de jours. Et des lions, on en voit des lions, des lionnes, on voit léopards, on voit guépards, on voit, si on a la chance, des rhinocéros, pas mal d'éléphants, des girafes, des zèbres, des gnous, des oiseaux à foison. Oui, des lions, on en voit beaucoup et parfois relativement proches. On n'a pas le droit, nous, de nous approcher des animaux. Par contre, les animaux parfois s'approchent de nous. Dans ce cas-là, on reste tranquille, le moteur éteint du véhicule. Et parmi les animaux différents des lions, donc éléphants, petite anecdote aussi, j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'avoir un éléphant qui est venu me rendre visite. Au point que j'avais ma fenêtre du 4x4 qui était ouverte. Il a levé sa trompe, il a rentré la trompe à l'intérieur, j'avais la trompe à 30 cm de mon visage. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait rien. On fait pas de bruit, on respire pas fort, pas de mouvement, pas de gestes brusques, et on attend que ça se passe, et on profite de ce moment-là parce que ce sont quand même des moments particulièrement uniques.
Avez-vous déjà vu des lions agressifs?
Alors, des lions agressifs, non. Un lion chasse quand il... Alors, il aide parfois les lionnes pour chasser des gros mammifères comme les buffles. Et à un moment de sa vie, le lion, lorsqu'il quitte son groupe dans lequel, là où il est né, il va se retrouver avec soit ses frères ou ce qu'on appelle une coalition, c'est-à-dire joindre un ou deux autres lions relativement jeunes, 3-4 ans, et vont être obligés soit de voler la nourriture qu'a été chassée, par exemple, par des guépards, ou alors ils vont chasser par eux-mêmes. Après, lion agressif, ça dépend de notre comportement. Je me souviens, non pas d'un lion, mais d'une lionne, qui à un moment, moi j'étais dans le véhicule, et a un regard assez sévère, assez bizarre, et je me tourne, et en fait, parmi les gens que j'avais dans mon 4x4, il y avait une personne qui faisait des grands gestes avec les bras. Donc j'ai demandé à ce que on arrête de faire des gestes parce que ça énervait la lionne finalement. Mais elle a pas pour autant bondi ou fait quoi que ce soit. Mais non, on n'a pas de... Vous savez, lorsque nous sommes là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est que les animaux que nous rencontrons, quand ils naissent, ils voient déjà beaucoup de 4x4. Donc pour eux, les 4x4, c'est pas quelque chose de dangereux.
Quel est l'animal le plus fou que vous avez vu?
Le plus?
Fou.
Fou?
Enfin...
Moi?
Bizarre.
Ça doit être moi l'animal le plus fou, je sais pas. Bizarre, non, il n'y a pas de côté bizarre. Pour certains, fascinant, je reviens sur les éléphants. Quand deux familles d'éléphants se rencontrent, ils vont se saluer. Et en fait, ils se saluent comment? Nous, on se salue soit en se serrant la main, en faisant, comment on appelle ça, un check, je crois, ou alors en se faisant la bise. Et les éléphants, eux, en fait, il y a un des individus ou plusieurs qui lèvent la trompe et qui vont la présenter, qui vont sentir la bouche d'un éléphant de l'autre famille. Et comme ça, il va comprendre un petit peu son état d'humeur et puis savoir est-ce que moralement tu vas bien, est-ce que tout va bien, etc. Et puis après, une fois qu'ils se sont salués, ils vont se séparer. Les éléphants me fascinent beaucoup, je les aime énormément.
Ouais. Êtes-vous impressionné par un animal en particulier?
C'est vrai que les animaux, quand on s'attarde, quand on s'intéresse... Parce qu'en fait, la vie, c'est quoi? C'est de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de nous. Je vous parlais tout à l'heure de l'astronomie. C'est toujours très intéressant de savoir comment notre planète s'est formée, finalement. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question-là? Des scientifiques? Oui. Est-ce qu'une autre question, c'est comment l'eau est arrivée sur Terre? Est-ce qu'on a réponse à ça? On a des hypothèses. Et ce qu'il y a tout autour de nous, comment les animaux vivent, comment on a construit par exemple une cathédrale, comment on pratique certains sports, faut être curieux dans la vie. Donc je m'intéresse à beaucoup de choses, peut-être un petit peu trop, mais je m'intéresse à beaucoup de choses et je suis très curieux. Et je vous incite vraiment à être curieux à tout ce qui se passe autour de vous. Et même entre vous, s'intéresser à la vie de chacun, partager vos passions, échanger vos passions. Ça c'est important.
Est-ce qu'on peut regarder votre film sur notre télé, par exemple?
Alors, de quel film parles-tu?
Les deux films que vous avez créés.
Sur la vie de...
Sur Jacques Bouillot.
Ah, les deux films, oui, effectivement, j'ai fait deux montages vidéo consacrés à la vie de Jacques Bouillot. C'est-à-dire, alors, il y a eu un premier film qui s'appelle Jacques Bouillot, le broussard naturaliste, qui retrace l'ensemble de sa vie, de sa jeunesse jusqu'à toutes les choses qu'il a pu réaliser, que ça soit le zoo de la Flèche, parce que Jacques Bouillot était alors bien avant moi était guide. C'était un guide de brousse, guide de safari. Il concevait aussi des expositions. Il proposait des conférences, des projections conférences. Donc ce premier film retrace son parcours, sa vie. Et le deuxième s'appelle Les Voyages de Jacques Bouillot. Donc j'ai travaillé à partir de films qu'il a réalisés lui-même avec une grosse caméra de l'époque, des années 60. Et ces deux films, alors, ne sont pas accessibles sur Internet ni en DVD. J'ai eu l'occasion de les diffuser, de les projeter plusieurs fois dans le cadre des animations de Food Nature. Après, il y a un projet cette année avec le pôle senior de refaire une projection pour bah, des gens qui sont à la retraite, hein, 60, 65 ans et plus. Donc ça, c'est en projet. Alors, est-ce que ça serait intéressant pour une école de se retrouver, admettons, soit dans une salle du cinéma ou au théâtre de la Loblée pour une projection, pour que vous découvriez un petit peu qui était Jacques Bouillot. Moi, si vous êtes d'accord, si l'école est d'accord, on y va, on prévoit une date, il n'y a aucun souci, ça sera avec plaisir. Il y a un troisième film que j'ai réalisé qui s'appelle Carnet de voyage en Tanzanie. Par contre, là, c'est mon parcours à moi. Si ça intéressait aussi l'école des cartes, je suis tout à fait ouvert pour qu'on puisse réaliser ce genre de projet. Et c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est quoi la Tanzanie? Qu'est-ce qu'on y voit? Comment se déroule un voyage? Qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que j'apprends aux gens? Et c'est mon parcours sur le sol de Tanzanie. Voilà.
Est-ce que t'as déjà vu ton animal qui a le visage le plus bizarre?
Visage bizarre?
Oui.
Alors. Parmi les animaux atypiques, c'est-à-dire qu'on aurait une forme un peu particulière. Alors, le fait de les voir quand même régulièrement depuis des dizaines d'années, je trouve plus de choses anormales ou bizarres. Finalement, je suis habitué à les voir. Alors, par contre, nous les humains, on a la faculté. Ce que font d'ailleurs, entre autres, les chimpanzés, à faire des grimaces. Donc parfois, effectivement, j'en connais quelques-uns. Alors, Jocelyn, non, t'es pas forcément quelqu'un qui fait beaucoup de grimaces. Je te connais pas sous cet angle-là, pas encore, du moins. Moi, j'en fais pas non plus, mais je connais quelques personnes dans mon entourage. Et là, tu es en train de nous montrer, les auditeurs ne pourront pas le voir, mais faire quelques grimaces. Eh ben, les chimpanzés font des grimaces, communiquent par des grimaces. Maintenant, les autres animaux, on voit parfois, effectivement, des... Est-ce que vous avez déjà vu ça, les chiens retrousser les babines quand ils sont énervés? Ça arrive de temps en temps. Hein? Oui. Et ben dans la nature, il arrive parfois que des animaux, pour telle ou telle raison, retroussent un petit peu les babines pour sentir certaines choses, savoir par exemple si une femelle est en chaleur. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une femelle est en chaleur, c'est-à-dire qu'elle est réceptive, c'est-à-dire qu'ils vont, entre le mâle et la femelle, ils vont s'accoupler pour que la femelle ensuite elle ait une portée. Parce que dans la nature, et comme chez nous, si on fait pas de petits, si nous les humains on fait plus de bébés, il y aura plus d'humains sur la planète Terre dans quelques dizaines d'années. Donc on se doit, voilà, les animaux font exactement la même chose que nous. Et puis, voilà, bon, donc je ne sais plus de quoi, qu'est-ce que j'évoquais, les grimaces, mais ça n'a plus de rapport là par contre.
Encore des gens dans 10 ans, parce que moi dans 10 ans je serai pas morte.
Non, mais il n'est pas question, je ne dis pas, non, il n'est pas question de ça. Mais simplement que pour qu'une espèce, que ça soit l'espèce humaine, que ça soit l'espèce les éléphants, que ça soit les castors, que ça soit les loutres qui ont été évoquées tout à l'heure, les lapins, ça a été évoqué aussi, ils sont obligés de se reproduire, comme on dit, pour avoir des petits qui auront, quand ils seront adultes, des petits. Et comme ça, ça va durer très très longtemps, de génération en génération.
J'ai vu dans un documentaire, il y avait le maître d'un panda, quand il voulait casser bambou pour le panda,
oui.
Il faisait une grimace, alors le panda il a pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire, alors quand il cassait le bambou, il faisait pareil que son maître, il faisait des grimaces.
D'accord.
Pour appliquer comme la force, que pourtant les pandas ils le font pas les grimaces qu'on fait nous quand on applique la force.
Ils font pas naturellement, ils font pas de grimaces. Par contre, tu as vu dans le documentaire que ce panda là imitait un petit peu le maître en question.
D'accord. Avez-vous eu cette envie dès que vous avez atteint l'âge de 5 ou 6 ans?
Alors, l'envie, quelle envie?
De sauver un petit peu les animaux, de partager cette passion.
Alors, 5-6 ans, ça me paraît un peu tôt. La première passion que j'ai eue, alors, on n'avait pas beaucoup de chaînes de télé à l'époque. Quand j'étais jeune, il y avait 3 chaînes de télé, simplement 3. Et puis la télé était en noir et blanc. C'était pas en couleur. Hein. Et il y avait une émission, Les Animaux du Monde, qui passait tous les week-ends. Et j'étais tous les week-ends à regarder cette émission-là parce que ça nous faisait rêver. comme je disais tout à l'heure, mon grand-père m'a initié, m'a montré des choses dans son télescope, des planètes comme Jupiter, Saturne, la Lune, les cratères de la Lune, et puis des objets du ciel profond, des amas d'étoiles, des nébuleuses, galaxies. Et j'avais que 8 ans, et j'ai découvert cette passion grâce à mon grand-père. Après, pour les animaux, alors, je ne sais pas si je sauve des animaux, en tout cas, je fais le nécessaire pour les protéger, et en tout cas, surtout pas leur faire de mal, preuve en est les mouches et les moustiques, et puis avoir beaucoup de respect. Je pense que c'est un mot qu'il faut garder dans sa tête tout le temps, c'est le respect les uns les autres, le respect de la différence. Il y a des bruns, il y a des blonds, il y a des roux, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gens qui pensent de telle façon, d'autres qui pensent d'une autre façon. Il faut se respecter mutuellement pour que, voilà, que la société aille bien. Vous avez effectivement, vous le voyez, vous probablement dans les médias, vous en entendez parler des conflits qui existent à travers le monde, y compris en France. C'est pas la plus belle des sociétés, on aimerait vous proposer quelque chose de mieux, mais faites en sorte vous-même d'avoir un avenir meilleur que celui que l'on a actuellement. Et moi j'y crois en vous, parce que c'est vrai que grâce à des émissions, grâce à l'apport de Jocelyn de Radio Prévert, vous découvrez des univers complètement différents que nous on n'avait pas accès quand on était jeune. Et ça va bouleverser le monde, et je pense que vous pouvez bouleverser le monde de façon très positive, et je fais partie des gens qui croient complètement en vous pour l'avenir.
Votre grand-père, il vous a transmis sa passion, mais comment ?
Alors, mon grand-père, en fait, en 1972, donc ça date, a fait construire un observatoire dans lequel il a installé son gros télescope, un très gros télescope. Un télescope, ça sert à observer des choses qui sont très très loin. Un télescope, c'est pas pour regarder les artichauts qui sont en train de pousser dans le jardin, vous imaginez bien. C'est pour regarder la Lune, ses cratères, des montagnes, c'est pour regarder Jupiter avec les 4 satellites qui tournent autour, les anneaux de Saturne et plein d'autres choses. Donc c'est lui en fait qui m'a transmis cette passion-là, qui m'a proposé de participer à une soirée d'observation. Et il a vu que ça m'intéressait. Donc régulièrement, on allait observer le ciel, et c'est le rôle que je tiens aujourd'hui en partageant ma passion avec le public de La Flèche et des environs.
Avez-vous déjà vu des éléphants se battre ?
Des éléphants se battre, ça arrive parfois. Des mâles, deux mâles qui ont envie de séduire, on va dire ça comme ça, ou un autre terme qui pourrait être un peu plus Jones, draguer quelque part, plaire une femelle, donc qui est, oh là là, il y a de la compétition entre les deux mâles, et s'il y en a un qui se sent moins fort que l'autre, il va partir assez rapidement. Les combats sont très violents. Vous savez qu'un mâle, un éléphant peut dépasser les 5 tonnes. 5 tonnes, c'est 5000 kilos. Par exemple, tu pèses à peu près combien de kilos? Une trentaine? Ouais, quelque chose, à peine 40. Donc, t'imagines, plus de 5000 kilos. Quand ils sont en train de s'affronter, on entend, ça fait du bruit, c'est assez spectaculaire, et puis, bah, parfois, il peut y avoir quand même de gros dégâts. Mais c'est pas très fréquent, c'est très rare. Parce que, en fait, les femelles s'intéressent à une catégorie de mâles. Des mâles qui ont un certain âge, et elles vont délaisser les jeunes mâles qui ont une 30, 35 ans, ça va pas les intéresser. Elles vont plutôt s'intéresser à des mâles qui ont 50 ans et plus. Donc, il y a des combats, mais ils sont relativement rares quand même.
Est-ce que vous avez déjà trouvé une défense d'éléphant par terre ?
C'est une bonne question, ça. Défense d'éléphant, donc effectivement, quand on parle de défense, on pense à ivoire, de l'ivoire qui a été... Les éléphants ont été énormément chassés pour leur ivoire, mais depuis des siècles et des siècles, des centaines d'années, voire plus même. Et on a failli faire disparaître les éléphants à cause de leur défense. On ne trouve jamais la moindre défense dans la nature. Pourquoi ? Parce que ça a une telle valeur que les autorités des parcs nationaux ou des réserves, dès qu'un éléphant meurt, ils vont récupérer les défenses pour les garder, et de façon à ce qu'elles n'aillent pas sur le marché. Quand on parle du marché, qu'elles ne soient pas vendues, utilisées à des fins commerciales pour gagner de l'argent. Mais il existe toujours ce qu'on appelle le braconnage. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le braconnage. En fait, c'est tuer des animaux de façon illégale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Donc ça existe encore, surtout non pas pour l'éléphant de savane. Il existe en gros deux espèces d'éléphants. celui de la savane et celui de la forêt. Les éléphants de forêt subissent encore beaucoup le braconnage. Et il y a une lutte anti-braconnage qui est en place, mais il y a encore des dégâts malheureusement. Mais pour répondre à ta question, moi je n'ai jamais vu de défense d'éléphants. J'ai présenté des défenses d'éléphants dans une exposition, mais en fait c'était des défenses en résine, c'était des fausses défenses, c'était des reproductions. Hors de question pour moi d'avoir à la maison de l'ivoire, ça c'est évident.
Quel est le prédateur de l'éléphant ?
Eh ben, il y a beaucoup de bonnes questions cet après-midi. Hein. Le lion, effectivement. Le lion est un prédateur, peut être un prédateur, alors pas pour un mâle qui pèse 5 tonnes, hein, vous imaginez bien, ou une femelle très 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 grande, très très lourde. Pour des jeunes éléphants, ça arrive de quelques années. Un éléphant qui est handicapé pour une blessure, une maladie, peut être victime, effectivement, des lions. Ça arrive de temps en temps. C'est relativement rare aussi, comme les hippopotames, qui est un animal aussi imposant, gros, lourd. La femelle pèse 2 tonnes, 2000 kilos, le mâle 3000 kilos. Ça arrive parfois que même des hyènes, pour un animal qui est un peu souffrant, voilà, s'acharnent sur un hippopotame pour... Et encore une fois, ça se fait pour se nourrir, ils le font pour se nourrir. Hein. Ils ne chassent pas des animaux pour le plaisir, c'est uniquement pour se nourrir.
Quelle est la victime de l'éléphant ?
L'éléphant n'occasionne pas de victime, hormis lorsque des gens en Afrique ou en Asie, on a l'espèce une partie d'un côté, donc l'éléphant, j'ai pas tout à l'heure j'ai oublié de citer l'éléphant d'Asie, donc que ce soit en Asie ou en Afrique, les populations locales, il y a comme chez nous des agriculteurs, des gens qui ont des plantations, on va parler admettons de maïs. Les éléphants, ils aiment beaucoup ça. En plus, il n'y a pas d'effort à faire pour aller se nourrir. Il suffit de rentrer dans le champ et puis de se nourrir. Alors, vous imaginez bien que les cultivateurs, les agriculteurs sont pas d'accord avec ça. Et parfois, ils se mettent face à un éléphant et l'éléphant, il fait pas de cadeau. Mais il y a des solutions pour éviter qu'il y ait des accidents. Il y a plein de choses qui sont mises en place. C'était l'objet de l'exposition que j'ai présentée de mémoire en 2014. Elle s'intitulait « Des éléphants, des abeilles et des hommes ». Les abeilles... bizarrement, peuvent aider les populations à préserver les plantations de maïs ou de pommes de terre, de choux, etc. Face aux éléphants, les éléphants ont une peur bleue des abeilles.
Quelle est la solution contre les éléphants qui volent dans les champs là ?
Alors, la solution qui a été découverte, en fait, c'était suite à des observations de scientifiques, des chercheurs, dont quelqu'un que j'ai rencontré par le passé, Ian Douglas Hamilton, qui a observé que les éléphants, lorsqu'ils se reposaient ou se nourrissaient dans un acacia, vous savez, un acacia, c'est un arbre. Nous, on a des chênes, des peupliers, en Afrique, il y a des acacias. On a aussi des espèces d'acacias en France. On va parler de l'acacia en Afrique. De temps en temps, il y a des abeilles qui vont... il va y avoir un essaim d'abeilles dans l'arbre. Imaginez un éléphant qui lève sa trompe et qui, à un moment, touche la branche où il y a l'essaim d'abeilles. Qu'est-ce que vont faire les abeilles ? Ben, les abeilles, elles vont vouloir se défendre. Elles vont déjà sortir de leur essaim et puis ça va faire un espèce de... Pssst. Et alors, qu'est-ce qu'elles font ? Elles veulent protéger leur essaim, donc elles vont piquer... non pas la peau d'éléphant qui est très épaisse, mais l'intérieur, entre autres, de la trompe et aussi l'intérieur de la bouche. Et les éléphants aiment pas ça parce que le venin de l'abeille est très très fort et très puissant. Donc ça leur fait vraiment une douleur insoutenable. Et dans ce cas-là, les éléphants, ils fuient, ils partent en courant. Et les éléphants ont appris, génération après génération, que lorsqu'ils entendent le bruit des abeilles, le bourdonnement, comme on dit, d'un essaim d'abeilles, qu'est-ce qu'ils font ? Il court, il fuit directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La solution qui a été mise en place par une Américaine du nom de Lucy King, en fait, elle a eu l'idée de mettre autour des champs des ruches d'abeilles, comme nous, vous savez, on a des ruches, il y a des ruches à la flèche, il y a le rucher de la flèche, je ne sais pas s'il doit exister encore, ou pas. Et donc, elle laisse passer les ruches tous les 8 mètres, et entre chaque ruche, elle mettait une corde. Une fois que l'éléphant voulait rentrer dans le champ, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tapait pas dans la ruche, mais il tapait dans la corde. La corde, elle bougeait, et donc ça faisait par défaut bouger les deux ruches de chaque côté. Ça excitait les abeilles qui sortaient de leur ruche et les éléphants entendaient quoi? Le bzzzit, et donc ils partaient. Et ça, c'est une solution très utilisée de plus en plus, en tout cas au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, dans les pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Alors, il paraîtrait qu'en Afrique de l'Ouest, ça fonctionne moins. Peut-être que le venin, la douleur que provoquent les abeilles en Afrique de l'Ouest est moins forte sur la peau des éléphants, donc ça marche moins bien. Mais en tout cas, c'est une jolie solution, très naturelle, parce que vous avez compris que les cultivateurs, d'une part, leur plantation est sauvée, et en plus, ils gagnent de l'argent grâce au miel. Donc c'est double bénéfice.
Quel est l'animal le plus braconné?
Ah, c'est une question piège. Ça dépend des périodes. On parlait tout à l'heure des éléphants. Et il y a eu plusieurs époques où les éléphants, surtout dans les années 80, où les éléphants ont failli être décimés, c'est-à-dire exterminés, supprimés de la planète. Aujourd'hui, on chasse toujours, encore une fois, sous forme de braconnage, des peaux d'animaux. Peau de léopard, peau de guépard, peau d'oslo, peau de lion, etc. Il y a des croyances, entre autres en Asie, où on nous fait croire que grâce à ceci, grâce à cela, ça va nous soigner éventuellement d'un cancer, ça va donner plus de puissance, etc. Des choses qui sont totalement, a priori, qui sont totalement fausses. Moi, je veux pas m'avancer, mais je crois qu'elles sont pas très vraies. Et les animaux en subissent vraiment les conséquences. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que on a besoin, déjà pour nous faire rêver, de voir des animaux, non pas que dans des zoos. Les zoos, ça peut être pratique dans un sens, mais c'est tellement plus joli de voir des animaux dans la nature, même dans notre nature, de voir des papillons voler, de voir des oiseaux siffler, chanter, de voir un chevreuil dans une forêt ou dans un champ, ou alors, effectivement, au-delà de nos frontières, voir des animaux qu'on qualifie d'exotiques, c'est très agréable. Mais il faut qu'on laisse de la place à ces animaux. Au nom de quoi l'espèce humaine devrait utiliser tous les espaces qui existent sur la planète? Est-ce qu'il y a une raison? Là, moi, c'est moi qui vous pose une question. D'après vous, est-ce qu'il y a une raison valable pour dire, nous les humains, on a le droit d'aller partout comme on veut et on détruit tout ce qu'on veut?
Est-ce que vous aviez déjà vu un éléphant et un félin, par exemple, se battre?
Non, jamais. Jamais. Ça me plairait pas. En fait, je vais vous avouer quelque chose. J'ai de plus en plus de mal à regarder. Alors, quand je parle de chasse, c'est-à-dire un prédateur comme un lion, une lionne, chasser une gazelle ou une antilope. J'ai vraiment beaucoup de mal. Finalement, j'aime pas voir un animal souffrir. J'aime pas voir des humains souffrir. Moi, j'aime la vie. Je pense que vous aussi, vous adorez la vie et il faut en profiter. Mais c'est vrai, de voir un animal souffrir comme ça, ça me fait pas plaisir. Je sais pourtant que le prédateur en question, il a besoin de se nourrir et il va pas au supermarché ou dans un petit commerce d'un petit village pour acheter ce qu'il a besoin. Lui, il se sert dans la nature. Comme le peuple Adzabé que je citais tout à l'heure.
Comment vous qualifiez les animaux exotiques, domestiques, sauvages?
Alors, en fait, quand j'utilise le mot sauvage, les animaux sauvages, je mets toujours ça entre deux guillemets et je rajoute même les animaux dits sauvages. Alors, on comprend ce que c'est qu'un animal sauvage en comparaison avec un animal domestique et un animal de compagnie. Est-ce que vous savez la différence, d'ailleurs, entre l'animal domestique et l'animal de compagnie?
Non.
Alors, en gros, j'espère ne pas faire d'erreur, l'animal de compagnie, c'est un petit peu comme nos chiens, nos chats, les petits hamsters que l'on a, les petits animaux qu'on a à la maison et qui nous apportent beaucoup d'amour et à qui on donne beaucoup d'amour. C'est ce qu'on appelle les animaux de compagnie. Par contre, les animaux domestiques, c'est plutôt les vaches, les moutons, tous ces animaux-là qui servent plutôt alors pour le lait, pour la viande, etc., etc. Donc, il y a une différence entre les deux mots, entre les deux vocabulaires. Mais dans la nature, effectivement, les animaux sauvages, animaux exotiques, tout ce qu'on peut les appeler comme on veut, c'est des animaux à part entière et qui vivent sur un territoire donné.
Quand les éléphants voulaient aller manger dans les champs, la corde, ça faisait pas tomber les ruches?
Ah non, c'est bien attaché. Hein. C'est bien attaché. Et puis, de toute façon, l'éléphant est très sensible. il sent qu'il y a quelque chose qui résiste finalement. Et très rapidement, les abeilles, voilà, elles supportent pas quand la ruche elle bouge comme ça. Et comme alors c'est le terme que j'utilise habituellement, c'est ça les excite, ça les énerve. Et donc elles sortent très très vite. Et l'éléphant, il entend. Il a une mémoire phénoménale, l'éléphant. Et en plus, c'est transmis. Quand vous imaginez une famille d'éléphants, c'est composé de quoi ? C'est composé d'une femelle, on appelle la matriarche, c'est-à-dire c'est la femelle la plus âgée. Et puis, elle a des sœurs, elle a des... Alors, les frères, non, sont partis, quittent le groupe à un certain âge. Et il y a les jeunes. Et c'est elle qui va, en fait, apporter toute l'éducation à ceux qui vont la succéder. Entre autres, c'est elle connaît exactement là où se trouvent les points d'eau. Parce que comme nous, on a besoin de boire tous les jours, les éléphants ont besoin de boire beaucoup. Minimum, c'est grosso modo entre 100-200 litres d'eau par jour. Donc il faut en trouver. Eh ben les femelles vont parcourir donc un chemin en fonction des saisons, saison de pluie, saison sèche, etc. Et les autres vont apprendre grâce à cette femelle là où elle est. Quand cette femelle va mourir, il y aura quelqu'un qui va prendre le relais. Ils se transmettent l'information et l'éducation de cette façon-là, y compris pour le son des abeilles. Mais c'est elle qui décide généralement quand est-ce qu'il faut partir à un moment donné.
C'est comme une tradition.
On peut appeler ça une tradition. Alors, quand même pas exactement. C'est plutôt de la transmission. L'éléphant sait des choses, a des connaissances. Eh ben, comme nous, ce que font les enseignants à l'école Descartes, ils vous transmettent leur savoir. Et ça, c'est hyper important, parce que je peux vous assurer qu'à l'âge que j'ai, bientôt 59 ans, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir bien étudié à l'école ? Parce que c'est l'endroit franchement idéal où on apprend plein de choses. En plus, c'est gratuit. On a accès à des connaissances et aujourd'hui des rencontres avec des professionnels et toutes les disciplines. C'est formidable. Vous avez une chance inouïe, en fait, d'avoir votre âge, même si vous en avez pas bien conscience aujourd'hui. Mais quand vous aurez mon âge dans un certain nombre d'années, vous direz, bah oui, il avait pas tort, le monsieur, là. C'est un endroit, et donc la transmission du savoir, bah, nous, les humains, on le fait. D'adultes vers les enfants, de professeurs à élèves, mais les animaux font exactement la même chose. Alors, pas pour toutes les espèces, hein, mais entre autres pour les éléphants, ça marche comme ça.
Comme vous aimez l'intelligence des éléphants, il y a aussi le poulpe qui est très intelligent.
Alors oui, le poulpe, on le voit jamais dans la savane, c'est un animal marin, et j'avoue ne pas avoir de connaissances particulières sur le poulpe, mais j'ai entendu dire comme toi, effectivement, que c'était un animal particulièrement intelligent, capable de faire des choses. Je crois que d'ailleurs, à une Coupe du Monde, il y a un certain nombre d'années, il y a un poulpe qui était devenu célèbre à travers la planète. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Je m'en rappelle plus le nom, ouais. Mais il n'y a pas que l'éléphant qui est intelligent. Mais déjà, le problème, c'est qu'est-ce que l'intelligence ? Voilà, comment on qualifie l'intelligence ? Mais à peu près, on comprend ce que c'est. Il y a des espèces, effectivement, qui le sont plus que d'autres. Il y a des espèces qui réagissent plutôt mécaniquement, dans le sens où c'est quelque chose de... Vous apprendrez ça plus tard en SVT, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, les sciences de la vie et de la Terre. Ce qui est inné, ce qui est acquis, ce que l'on apprend au fil du temps et ce que l'on sait déjà dès la naissance, voilà, il y aura des automatismes qui vont apparaître. Donc ça, c'est des choses, voilà. Mais nous, on a besoin, vous avez besoin, vous, de parents et d'enseignants pour apprendre, pour découvrir. Ça peut pas passer autrement. C'est-à-dire que si on laisse un enfant en plein milieu de la forêt, ce qui ne se passe pas, bien évidemment, l'enfant, il va être un peu perdu et ça va être très compliqué.
Mais pourquoi les éléphants prenaient peur pour les abeilles, pour les guêpes ou
Parce que en fait, les abeilles vivent en société. Quand on parle d'un essaim d'abeilles, elles sont des milliers, des dizaines de milliers. Les guêpes, généralement. Alors, je suis pas spécialiste des guêpes, même si avec Morgane Sino du CPE de la Flèche, on a consacré une soirée Food Nature sur les guêpes. Les abeilles. Le gros avantage, c'est qu'elles vivent en société, donc en grand nombre. À partir de ce moment-là, effectivement, elles forment des essaims Et lorsque l'essaim, comme je disais tout à l'heure, est perturbé par quelque chose extérieur, qui vient de l'extérieur, donc elles montrent leur mécontentement par le fameux bzzz.
Combien avez-vous d'animaux dans votre association?
Ah, on n'a pas d'animaux dans l'association. En fait, moi j'ai un animal que je considère plus comme un animal, c'est mon chat, il s'appelle Petit Chat. Il fait partie des amours de ma vie. Et non, j'ai pas. Alors j'ai les animaux dans la nature. Je nourris les oiseaux l'hiver quand le froid est important. Là, on a eu des gelées, des choses comme ça. Donc on met de la graine, des boules de graisse. On essaye de leur apporter un petit soutien, une aide alimentaire pour qu'ils survivent. Mais sinon, au sein de l'association Food Nature, en fait, nous, on sert à organiser des événements, des projections, des conférences, donc des discussions, des expositions, des sorties nature. Et puis, mais on n'a pas d'animaux dans l'association, contrairement à d'autres.
Je sais pourquoi les éléphants, je peux vous dire aussi qu'ils ont peur que les abeilles rentrent dans leur trompe et aller dans leurs poumons. C'est pour ça aussi qu'ils fuient.
Pas trop.
Alors, un petit élément, mais tu évoques le fait effectivement de la trompe, de la bouche. Alors, les abeilles ne vont pas jusqu'à l'intérieur dans les poumons, c'est pas possible. Par contre, il faut savoir que contrairement à la peau de l'éléphant, on les appelle, l'autre nom qu'on donne aux éléphants, ce sont des pachydermes. Des animaux à peau épaisse. C'est-à-dire que la peau est très épaisse, c'est-à-dire que si l'abeille pique le dessus du dos, le dos de l'éléphant, l'éléphant va rien sentir. Par contre, au niveau de la trompe, à l'entrée de la trompe et au niveau de la bouche, la peau est très fine. Et là, paf, le dard de l'abeille, poup, ça pique et ça jette un venin. Et là, l'éléphant n'aime pas du tout. On peut peut-être considérer là que c'est une conclusion. On termine sur les éléphants. Ça fait quand même partie des animaux que j'aime beaucoup. Et puis, je vous remercie pour toutes ces questions, multiples questions. J'espère avoir répondu du mieux que je pouvais. Et puis, je vous souhaite bon courage. Et ça a été un plaisir énorme de passer ce moment-là parmi vous.